Bonjour. On va reprendre, après cette interruption de vacances, je vais reprendre toute cette dernière partie du cours, c'est-à-dire les trois derniers, à nouveau sur les problématiques de grande dimension, c'est-à-dire véritablement les problèmes de classification et de régression. Donc on a fait un petit parcours, on a commencé par regarder ces problèmes de grande dimension en observant qu'il y avait au cœur de toutes les difficultés toute cette problématique de malédiction de la dimensionnalité, le fait qu'on avait à estimer des fonctions en très grande dimension, et qu'en sous-jacent, le problème c'était de trouver une forme de régularité qui permettait de réduire la dimensionnalité du problème. Et donc cette forme de régularité, on a commencé à l'explorer dans le cadre plus classique en maths de la basse dimension, et en regardant quel type de régularité de façon un peu classique on pouvait exprimer, puis on est passé par les outils classiques de traitement du signal, c'est-à-dire la transformée de Fourier, qui permet d'exprimer le fait qu'un signal est régulier et donc peut s'exprimer avec peu de coefficients de Fourier, par exemple les basses fréquences. Et puis on a vu cette autre façon d'attaquer les problématiques de régularité qui était non linéaire, en regardant des représentations parcimonieuses. Et notamment, un des outils pour faire ça, c'est la transformée en ondelette qui permet de caractériser éventuellement des phénomènes transitoires. Et tant qu'il n'y a pas trop de phénomènes transitoires, on obtient des représentations qui sont parcimonieuses. Donc tout ça, ça va être des outils qui vont nous permettre de revenir sur la grande dimension et de construire des représentations pour faire de la classification, de la régression, etc. Alors maintenant, je voudrais reprendre les problèmes de grande dimension, un peu dans toute leur généralité, mais en essayant de lier ça avec l'algorithmique, et notamment en commençant par les techniques de régression et de classification linéaire, et l'introduction de représentations, notamment avec les classificateurs à noyaux. Alors, d'une façon générale, quand on aborde ces problèmes de classification ou de régression, on peut avoir deux points de vue. Un point de vue, disons, déterministe, où on se dit on a une fonction qui va relier la réponse à la question Y aux données X, donc une fonction f de X qu'on va vouloir estimer. Et puis on peut aussi prendre un point de vue stochastique, qui consiste à dire Y, c'est une fonction aléatoire de X, et on va essayer de trouver le Y le plus probable. Et ça, c'est le point de vue bayésien. Alors, je vais juste commencer par ces deux points de vue, en regardant notamment le point de vue bayésien, pour rapidement montrer que la question, elle n'est pas là. Que vous preniez un point de vue stochastique bayésien ou un point de vue déterministe, la vraie difficulté du problème, ça va être, à la fin, de capturer la régularité du phénomène que vous voulez estimer, de manière à pouvoir le faire avec un nombre raisonnable de données. Donc, je vais, pour bien clarifier ça, je vais prendre... Jusqu'à maintenant, j'ai surtout pris un point de vue déterministe. Je vais reprendre ici un point de vue plus stochastique bayésien pour montrer le lien entre les deux et le fait qu'il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, on devient bayésien ou pas bayésien qu'on va résoudre le problème. C'est juste une façon de poser le problème. Donc, tous ces problèmes donc d'apprentissage... Donc ici, on est dans le cadre supervisé. Donc, vous avez une valeur Y que vous voulez estimer à partir des données X. Et puis, comme on l'a vu, on a des exemples pour faire ça, c'est-à-dire, dans le cadre supervisé, un certain nombre de XI, X appartenant à un espace de grande dimension D. Et puis, on connaît les réponses YI associées au N exemples qu'on a à notre disposition. Et pour bien poser le problème, il va y avoir une fonction de coût. On va calculer un estimateur Y tilde de Y, et on va avoir une fonction de coût qu'on appelle le risque, qui va quantifier l'erreur qu'on aura commis entre Y tilde et Y. Alors, d'une façon générale, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver un Y tilde qu'on va donc calculer à partir de X. Et ce qu'on va essayer, c'est de minimiser l'erreur. le risque en moyenne, c'est-à-dire l'espérance sur tous les x, y qu'on peut rencontrer, du risque entre y et, alors là j'ai pris grande lettre, y, et l'estimation de y pris à partir de x. Et notre but, ça va être de trouver un f-tilde qui va permettre de minimiser cette erreur. Et donc, le type de question qu'on peut se poser, c'est quel est le f-tilde idéal qui va permettre de minimiser cette erreur si on veut calculer l'erreur en moyenne. Alors, il y a deux types de problèmes. Donc, typiquement, il y a les problèmes de classification. Donc, les problèmes de classification, c'est les cas où Y, c'est l'index d'une classe, donc il n'y a pas de structure particulière. Et une fonction de coût naturelle, c'est le risque, ce qu'on appelle le risque 0, 1 loss en anglais, donc c'est un risque binaire, qui grosso modo dit le risque entre Y et Y tilde, eh ben, ça va être tout simplement 0 si Y est égal à Y tilde, et puis sinon on a fait une erreur, donc ça va être 1 si Y est différent de Y tilde. D'accord ? Il n'y a pas de topologie particulière de Y proche de autre Y, donc soit on a fait une erreur, soit on n'a pas fait d'erreur, et ça c'est l'erreur de classification, disons la plus classique. Et puis l'autre type de problème qu'on peut considérer, on a vu, sont des problèmes de régression. Alors dans le cas de la régression, eh bien, il y a une structure sur Y, on va dire Y appartient à un grand R, et donc un risque possible, classique, c'est évidemment pas unique, c'est par exemple de prendre le risque quadratique, Y ou Y tilde au carré, et à ce moment-là, ce qu'on va vouloir, c'est minimiser l'erreur quadratique. Alors je vais juste commencer par essayer de calculer le F tilde optimal dans ces deux cas, pour bien voir qu'effectivement, très naturellement, dans ce cadre-là, on va voir apparaître des probabilités conditionnelles, donc une approche bayésienne, et qu'on va se retrouver à nouveau face à la malédiction de la dimensionnalité. Alors, si vous voulez calculer cette valeur moyenne, donc l'espérance par rapport à xy de R de y de x, eh bien ça va être, alors si je suppose que j'ai une densité, que x et y ont une densité par rapport à, par exemple, la mesure de Lebesgue, à ce moment-là, je vais avoir l'intégrale double sur xy de p de xy r de y, la valeur moyenne, f tilde de x, dx, dy. D'accord ? C'est la valeur moyenne, je la multiplie par la probabilité. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment l'estimation à y fixée. Donc, p de xy, on a envie de l'écrire comme étant la probabilité de y sachant x fois p de x. Donc, si je remplace ici, je vais avoir l'intégrale sur x, donc sur RD, l'intégrale sur les y de p de y sachant x, le risque R de y f tilde de x dy, et puis le dx, et puis il y a le p de x, et le p de x, je peux le sortir ici. Alors, si je suis dans le cas d'une classification, en fait, Y va que prendre des valeurs finies. Il va y avoir K classes. Donc, cette intégrale sur Y, en fait, c'est une somme discrète. Dans le cas de la classification, ce que j'ai écrit comme une somme sur tous les Y, en fait, ça va être l'intégrale sur RD, donc la moyenne sur, par rapport à X, de la somme, les Y, en fait, ils vont avoir K valeurs possibles. Y va pouvoir aller, disons, de 1 à grand K, de P de Y, sachant X, fois le risque. Alors, le risque, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être soit 1, soit 0. Donc je vais le laisser sous forme ici de risque, RY, F tilde de X, et puis c'est dx. Donc, question maintenant, quel est le meilleur estimateur possible? D'accord? Il faut minimiser cette somme. Ce que je sais, c'est que R, le risque, ça va être soit 0, soit 1. Ça va être 0 si je fais une erreur, 1, donc 0 si effectivement f tilde de x est égal à y, et 1 si f tilde de x n'est pas égal à y. Si je veux minimiser ça, je vais minimiser cette quantité à x fixé. Pour chacun des x, je vais minimiser cette quantité. Et qu'est-ce que j'ai envie? Eh bien, lorsque cette probabilité ici est grande, comme je suis en train de sommer ces probabilités, j'ai intérêt à ce que le risque soit 0. Donc pour minimiser cette quantité, ce que je veux, c'est que f tilde de x soit égal au y tilde tel que la probabilité de y tilde sachant x est égale au maximum sur tous les y de la probabilité de y sachant x. Parce que à ce moment-là, je vais annuler cette probabilité et donc je vais minimiser cette somme. Pour minimiser cette somme, je veux que le risque soit nul lorsque la probabilité est maximum. Et donc, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Eh bien, c'est le classificateur bayésien, c'est-à-dire que je vais choisir la classe qui est la plus probable sachant x. D'accord? Donc, minimiser le risque binaire 0,1 en moyenne, ça va revenir à calculer, en tout cas essayer de trouver la classe qui va minimiser, maximiser la probabilité conditionnelle sachant x, c'est-à-dire la classe la plus probable étant donné les observations. Alors maintenant, si on se dit ça, on peut se dire ok, finalement encore une fois le problème il est résolu puisque on a une formulation analytique. On n'a plus qu'à estimer cette probabilité conditionnelle de y sachant x. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a tous nos exemples yi qui sont des points dans notre espace RD. Qu'est-ce que je peux essayer de supposer pour estimer cette probabilité de y sachant x à partir de mes exemples? Ce que je peux, par exemple, dire, c'est que finalement, la probabilité de y sachant x, quand x bouge un petit peu, elle ne devrait pas trop bouger. D'accord? Donc, d'une certaine façon, je peux faire une hypothèse de régularité sur cette probabilité. Par exemple, que cette probabilité est une fonction lipschitzienne de x, ça ne va pas trop bouger quand x bouge. Si c'est le cas, quand je prends un point xi, je peux mettre une boule autour de ce point xi, et puis essayer d'estimer la probabilité. Donc, au point xi, je sais que la valeur est yi, je sais que les probabilités de y sachant x ne vont pas trop bouger là-dessus. Donc, pour estimer ces probabilités, je peux regarder tous les points qui sont là-dedans, compter le nombre de valeurs pour lesquelles. Alors, les valeurs de y que y peut prendre, ça va être entre 1 et k. Compter le nombre de classes 1, le nombre de classes 2, le nombre de classes k à l'intérieur, et puis tout simplement estimer la probabilité d'une classe k comme étant le nombre d'éléments de classe k qui est à l'intérieur de cette boule. D'accord? Et ça va me donner une estimation de la probabilité conditionnelle étant connu x est égal à xi. Et je peux faire ça en tous les points, et puis ensuite dire... je vais maximiser cette probabilité. Maximiser cette probabilité, ça va revenir à faire quoi? Ça va revenir à regarder à l'intérieur de cette boule et regarder quelle est la classe qui est la plus représentée à l'intérieur de cette boule. Autrement dit, ça va être une technique qu'on appelle des cas plus proches voisins. Parmi, je peux soit fixer le rayon, soit dire je vais prendre au total k points autour et puis regarder le plus présent. Donc ça... Si on fait ça, on tombe sur un algorithme des plus proches voisins. D'accord? Encore une fois, ça va être l'algorithme qui va regarder autour de chacun des points X dans une boule avec un voisinage qui ne devra pas être trop grand, parce qu'il faut quand même que cette probabilité reste constante, et regardez la classe la plus représentée. Alors à nouveau, pourquoi ça ne va pas du tout marcher? Ça ne va pas du tout marcher parce que pour que j'ai une chance d'avoir plus qu'un élément à l'intérieur de la boule, il va falloir que la boule soit énorme. Parce que, comme on l'a vu, l'espace est absolument gigantesque et on a très peu de points dans l'espace. Et donc, en fait, la boule, elle va être tellement grande qu'évidemment, cette densité de probabilité ne va absolument pas être constante. Et donc, ça ne va pas marcher, à moins que vous commenciez à avoir énormément de points et donc, avec une boule de rayon epsilon, vous soyez garanti d'avoir des points à l'intérieur. Mais pour ça, le nombre de points n va devoir grandir comme epsilon à la puissance moins d, où d est la dimension de l'espace. Et donc, on retombe sur la malédiction de la dimensionnalité. D'accord ? Donc, juste pour bien insister, ce n'est pas parce qu'on prend un point de vue bayésien où on a une formule analytique sur la solution qu'on évite le problème. C'est juste une autre façon d'exprimer le problème. Alors, c'est quoi la différence, d'une certaine manière, entre le point de vue bayésien et le point de vue déterministe ? Un point de vue déterministe, ça va consister à dire on va supposer que Y est unique. C'est-à-dire, je suppose que Y est une fonction de X. Supposer que Y est une fonction de X, ça revient à dire qu'en fait, la probabilité de Y sachant X, eh ben, c'est tout simplement un Dirac pris en Y.f de X. Oui. Donc, ça va revenir à dire qu'on a une densité qui va être complètement concentrée, c'est-à-dire il y a une solution unique. En fait, ce qui se passe, c'est quand on est en grande dimension, ça arrive très souvent. C'est-à-dire quand, encore une fois, vous considérez des problèmes de classification d'images, quand le problème n'est pas horrible, disons, la plupart du temps, vous n'allez pas avoir d'ambiguïté. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un chien, un chat, etc.? Il y a une solution unique. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de données à votre disposition pour essayer de définir la classification. Donc, dans beaucoup de ces problèmes, on va être dans un cas où le problème, ça ne va pas être tellement l'ambiguïté sur l'Y, mais ça va être de trouver quel est effectivement le bon Y. Mais, ceci étant, le cadre bayésien est tout à fait valable et donne une solution analytique. Alors, le deuxième cas, c'est le cas de la régression. Alors, dans le cas de la régression, eh bien, si je reprends ce que j'ai écrit là-haut, ici, Y, ça va bien être maintenant une variable continue. Donc, je vais avoir ici l'intégrale dans le cas de la régression. Alors, maintenant, c'est la régression. La y va, par exemple, varier dans R, et c'est l'intégrale de py sachant x. Et puis, ici, on a y, le risque, c'est la différence entre y et f tilde de x, dy, dx. Donc, question, quelle est la valeur de f tilde de x quadratique qui va minimiser ceci? Ben, ici, si on se place encore une fois x fixé et qu'on veut minimiser ici, vous voulez minimiser un écart à la moyenne, parce que si je considère l'intégrale de y, p de y, sachant x, dy, ça, c'est l'espérance conditionnelle de y sachant x. D'accord ? Et donc, vous voulez trouver ce qui va minimiser la différence par rapport à y, et ce qui va minimiser la différence par rapport à y, ça va être ici intégré par rapport, en quadratique par rapport à la densité de probabilité, ça va être un écart quadratique, et l'écart quadratique, il est minimisé quand vous prenez pour la valeur f de x la moyenne. Donc, le minimum de ça, il est obtenu pour f tilde de x
qui va être exactement égal à l'espérance conditionnelle de y sachant x, c'est-à-dire, encore une fois, l'intégrale de y, p de y, sachant x, dx. Ça, c'est juste une conséquence du fait que, d'une manière générale, quand vous avez une variable aléatoire y, que vous voulez l'approximer par une constante mu en minimisant ceci, eh ben, le minimum, il va être obtenu pour mu égale espérance de y. D'accord ? Ça, l'écart quadratique, et ça, ça va vous donner la variance. Ben, c'est exactement la même chose à x fixé. Le minimum, il va être obtenu par la moyenne de x à x fixé, c'est-à-dire l'espérance conditionnelle. Et donc, l'estimateur optimal de la régression, évidemment, c'est l'espérance conditionnelle. Alors, si vous voulez calculer à nouveau l'espérance conditionnelle en grande dimension, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez votre observation x, vous allez faire une boule autour de x, et vous allez regarder le nombre de points qui tombent dans cette boule, et vous allez calculer la valeur moyenne à l'intérieur de cette boule de y. Ça va vous donner une estimation de l'espérance conditionnelle. Et manque de chance à nouveau, en grande dimension, ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Parce que soit la boule est énorme, et à ce moment-là, la densité de proba n'est pas du tout constante, soit la boule elle est toute petite, à ce moment-là, vous n'allez avoir aucun point à l'intérieur. Et donc c'est toute cette difficulté qui est que ces espérances conditionnelles, essentiellement, elles sont horriblement difficiles à calculer en grande dimension. Donc voilà, ça c'est juste pour une seconde revenir sur le point de vue probabiliste et bayésien pour montrer qu'on fait face, qu'on le pose d'un point de vue déterministe ou probabiliste, on fait face exactement au même problème, c'est juste un regard un peu différent de la même question. Donc, l'enjeu, ça va être d'essayer de contourner dans tout ce qu'on va faire cette malédiction de la dimensionnalité. Alors, la technique principale qui est utilisée en classification pour essayer de contourner ce phénomène, c'est d'imposer une très très forte régularité sur f de x, c'est-à-dire si je le considère de façon déterministe, y égale f de x, ou sur la probabilité conditionnelle de y sachant x. Hein, que je regarde l'un ou l'autre, c'est le même point de vue. C'est-à-dire, je ne vais pas simplement supposer que je suis localement régulier, par exemple Lipschitz, Lipschitz alpha, je vais supposer quelque chose de beaucoup plus fort, que essentiellement, ça ne va pas dépendre de d variables, c'est-à-dire ici, y est une fonction d'un signal dans RD, mais de beaucoup moins de variables, et c'était toute l'idée de la réduction de dimensionnalité. Alors cette idée de la réduction de la dimensionnalité, on va la pousser à l'extrême en supposant qu'on est capable de réduire ces d variables à une seule variable. Donc on y va de façon très violente, et ça paraît très brutal, mais ce qu'on va voir, c'est que c'est vraiment une très belle idée, et qu'en la généralisant un peu, eh bien, on obtient quasiment tous les algorithmes d'apprentissage. Pas absolument tous, mais l'essentiel. Donc le principe est le suivant. C'est d'essayer... Alors, je vais commencer à nouveau par le problème de classification, puis je vais me placer dans un cas encore plus simple, où y, il y a deux possibilités, il y a deux classes, moins 1 ou 1. D'accord ? Donc, j'ai deux... Alors, j'en avais déjà parlé. J'ai deux classes. Et il va falloir départager les deux classes. Donc, départager les deux classes, ça, grosso modo, ça revient à essayer de trouver une frontière qui va séparer les deux classes. D'accord ? Et l'idée tout à fait... naturel, simple, c'est de se dire, on va essayer de linéariser cette frontière. C'est-à-dire, on va essayer de faire un changement de variable. Donc, il va y avoir, d'une certaine manière, un nouveau x' qui va être phi de x. Et dans ce nouvel espace, ou je peux l'appeler z plutôt pour prendre une autre variable, z, et dans ce nouvel espace, les points vont être renvoyés, ça va être maintenant les points phi de x. Et ce qu'on espère, c'est que maintenant la frontière devienne une frontière linéaire, c'est-à-dire devienne toute plate. Autrement dit, un hyperplan dans cet espace. Un hyperplan, ce qui veut dire que l'hyperplan est caractérisé par le vecteur orthogonal à l'hyperplan. Et dans ce cas-là, on a déjà vu, l'idée, ça va être donc, du coup, de dire bah, tout ce qui va nous intéresser, si effectivement j'arrive à faire cette classification, c'est de regarder la position de la croix ou du rond relativement au plan, du point X relativement au plan. Et donc, on va projeter ces points sur cette droite, qui est ici. Donc, pour les projeter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le produit scalaire par rapport à X, à W. Et si, par exemple, je suppose que norme de W est égale à 1, eh ben, je vais avoir exactement la position, si ici j'ai le 0, c'est-à-dire la coordonnée du point projeté ici. Et puis, le plan, eh ben, il est décalé d'une certaine quantité B. Et ensuite, savoir si je suis à gauche ou à droite du plan, eh ben, ça va tout simplement revenir à calculer le signe de ceci. D'accord ? Alors, excusez-moi, ici, ce n'est pas x, mais c'est phi de x, parce que je suis placé comme ceci. Et donc, ça va être mon estimateur. D'accord ? Alors, essentiellement, ce que je dis quand je fais ça, c'est que, ici, la notion de similarité dans RD, on pourrait penser la définir par x moins x prime. Et en fait, en très grande dimension comme ceci, cette notion de similarité ne va pas nous donner une information appropriée. L'information ici de similarité, je vais l'avoir en regardant phi de x moins phi de x prime. Alors, si je développe ça, c'est norme de phi de x carré plus norme de phi de x prime carré moins 2 produit scalaire de phi de x prime. Donc évidemment, deux points sont très similaires s'ils sont proches, et donc si leur produit scalaire est aussi grand que possible. Donc ça, c'est produit scalaire, donc c'est quelque chose qui va quantifier d'une certaine manière la similarité entre des points. Et après tout, si je définis le phi, je vais définir du coup un nouveau produit scalaire que je vais appeler ici k de xx prime, et c'est ça qu'on appelle un noyau. Et ce qu'on va voir, c'est que finalement, pour faire une classification comme ça linéaire dans cet espace, ça peut être vu soit comme un choix d'un changement de variable, soit comme un choix de critères de similarité entre deux points, de nouvelles métriques de similarité. Et toute la question, c'est de trouver des métriques de similarité qui rendent le problème séparable. C'est-à-dire, effectivement, les croix, d'une certaine manière, s'agrègent dans une partie de l'espace, les ronds dans une autre partie de l'espace, et du coup, on peut bien les séparer par rapport à ça. Alors, une autre manière que j'avais décrit de voir ça, c'est de regarder ce produit scalaire, phi de x. Eh bien, c'est toute une famille de coefficients, phi k, dans un espace, disons, de dimension d'prime. Donc, ce produit scalaire ici, ça va être la somme des coordonnées de w, c'est-à-dire wk, fois phi k de x plus b. Donc, qu'est-ce qu'on est en train... Comment est-ce que souvent les gens interprètent ce vecteur phi comme un vecteur de pattern ou de structure élémentaire en essayant d'interpréter ça comme une espèce de vote. C'est-à-dire, on regarde des structures de phi de x et on essaye de voir en quoi cette structure a tendance à voter plutôt pour la classe 1 ou pour la classe moins 1, Si WK est positif, ça veut dire qu'on associe à phi k comme étant grand plutôt un indicateur d'être dans la classe 1, s'il est négatif, plutôt de la classe moins 1, et donc on peut interpréter tout ça comme un espèce de vote entre des structures. Et si on pense en ces termes, alors qu'est-ce que c'est encore une fois que cet S W ? Eh bien, c'est l'axe discriminant entre les deux classes, et donc on a essayé de trouver des patterns discriminantes entre différentes classes. Alors, pour la conférence inaugurale, je prenais cet exemple, par exemple, de classification de voitures, où vous avez deux types de voitures, d'un côté les camions de pompiers, et puis de l'autre côté, toutes les autres voitures possibles. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des images qui ont 1 million de pixels, horriblement compliquées, parce que vous pouvez avoir un background très différent suivant que votre voiture est en ville, à la campagne, etc. Les types des voitures peuvent être extraordinairement difficiles, et pourtant le problème peut être extraordinairement simple. Pourquoi il peut être extraordinairement simple ? Parce qu'il se trouve que les camions de pompiers, ils sont rouges et ils sont gros. Donc si vous prenez une voiture comme ça, rouge, en plein milieu de l'image, et une manière de voir si ça va être plutôt un camion de pompier ou pas un camion de pompier, c'est de compter le nombre de points rouges dans l'image. Et si vous avez beaucoup de points rouges, il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit un camion de pompier plutôt qu'une autre voiture. Alors, c'est idiot, sauf que ça vous permet de résoudre très simplement un problème qui est en apparence très compliqué en faisant une réduction de dimensionnalité. Le phi de x, ça compte ici tout simplement le nombre de points rouges, et vous allez essentiellement rendre ces points rouges comme étant le critère discriminant. En fait, ce qui se passe, c'est que en pratique, il n'y a pas un critère comme ça. Et donc, ce que les gens ont fait, c'est essayer plutôt de définir des dictionnaires de patterns comme ça, phi k de x, avec plein de possibilités différentes, des coins, des contours, etc. Et puis d'apprendre quel est le meilleur WK qui va calculer cette combinaison linéaire. Alors, on fait face ici à deux types de problèmes quand on essaye de prendre ce genre d'approche. Le premier type de problème, qui est d'une certaine manière le plus simple et qu'on va voir aujourd'hui, c'est le problème de sélection du W et du B. Et l'analyse mathématique qui va nous permettre de comprendre pourquoi effectivement on va éviter la malédiction de la dimensionnalité quand on fait ça. Donc, le problème 1, ça consiste à essayer d'optimiser le choix du classificateur et donc, autrement dit, de la direction du plan et du décalage de W et de B, c'est-à-dire vous avez ici D plus une variable. D'accord ? Le deuxième type de problème, ça va être d'optimiser la représentation phi de x. J'en ai déjà parlé. Et c'est là qu'évidemment, il va y avoir toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit faire un choix a priori, et on peut même remplacer le phi de x par le noyau k de xx'. C'est-à-dire, je peux éventuellement, plutôt que spécifier phi de x, spécifier ce produit scalaire, et ça c'est l'approche de classification à noyau. Et puis il y a deuxième type d'approche, c'est de se dire que le problème est vraiment décidément trop difficile et donc on n'a pas suffisamment d'informations a priori pour spécifier phi de x, et à ce moment-là il faut apprendre phi de x. Et apprendre phi de x, eh bien, c'est typiquement ce que vont faire les réseaux de neurones. Et donc, les réseaux de neurones, on va commencer à la fin de ce cours et ce sera essentiellement le sujet principal du cours de l'année prochaine avec les réseaux de neurones et les réseaux de neurones profonds. Mais avant de rentrer là-dedans, je pense que c'est important d'avoir une bonne vision de ces outils, en particulier parce que les réseaux de neurones sont essentiellement basés sur des successions de transformations linéaires, c'est-à-dire de classificateurs linéaires, non-linéarité, etc. Donc c'est des cascades de ces idées, et donc c'est assez fondamental de bien comprendre avant ce qu'il y a derrière. Alors, première question, donc, Je vais une seconde oublier le phi de x, puisque après tout, là, trouver le meilleur w, eh ben, je peux... phi de x appartient à un certain espace, donc je peux toujours considérer que c'est x ici. Et donc, mon problème ici, ça va être, je vais prendre pour phi de x identité, de trouver un classificateur sous cette forme. Alors, l'espace des classificateurs, ici, H, mais c'est l'ensemble des F tilde qui dépendent de oméga B qui appartiennent à RD plus 1. Et ça, c'est déjà trop grand. C'est déjà trop grand parce que, souvenez-vous, quand on va essayer de faire une classification, ce qu'on a vu, c'est que le nombre de points, ou plutôt l'erreur de fluctuation, grosso modo, se comporte comme la taille de l'espace des classificateurs divisé par le nombre d'exemples. Alors ça, c'est dans le cas où l'espace des classificateurs est fini. Ici, évidemment, on a un espace de classificateur qui est indexé par RD plus 1, qui est infini. Simplement, comment on passe d'un espace infini à un espace fini? On peut le quantifier. C'est-à-dire qu'on dit oméga B, je n'ai pas besoin de regarder toutes les valeurs en continu, je peux le quantifier tout en maintenant une petite erreur epsilon. Et le problème, c'est que si vous quantifiez un espace comme ceci avec une erreur epsilon contrôlée, comme l'espace n'est pas compact, vous allez avoir besoin d'un nombre infini de points. Et donc on sent bien que si jamais on n'impose pas que ces deux variables-là, elles sont bornées, eh bien vous allez avoir un espace de possible qui est beaucoup trop grand, et si l'espace des possibles est beaucoup trop grand, vous allez avoir beaucoup trop de fluctuations, autrement dit, vous allez overfitter. Donc, un des problèmes va être évidemment d'essayer de restreindre encore davantage de manière à se retrouver dans un domaine compact, et là, on va voir apparaître le concept de régularisation. Concept de régularisation, il va essayer de limiter H à un domaine plus petit. Alors, une des manières, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette variable oméga B par un oméga. Alors, pourquoi? Parce que je peux toujours voir ce produit scalaire, oméga produit scalaire avec x plus b, si x, donc ça a des variables x1, xd, si je rajoute la variable 1, ici, eh bien, je peux, excusez-moi, je rajoute la variable B, c'est toutes les inconnues. W, j'ai comme coordonnées W1, WD. Si je rajoute la variable 1, je vais l'appeler X', W', et bien ceci, je peux l'écrire comme le produit scalaire de W' avec X'. Ça me permet de ne pas me trimballer toujours un plus B. Grosso modo, j'ai D plus une variable à optimiser et j'ai à calculer une variable W telle que le produit scalaire va faire ma classification. Donc, le problème de régularisation. Je vais me retrouver dans tous ces problèmes à essayer de minimiser le risque. Et le minimiser le risque, ça va être le risque empirique qui va consister à regarder le risque de 1 à n des R de l'erreur entre le vrai Xi et le Xi qui a été prédit comme ceci. De manière à essayer de réduire indirectement cette classe, ce qu'on va imposer, c'est que ici, le h de xi, eh bien, c'est le signe du produit scalaire entre wxi. Eh bien, je vais imposer que la norme de w carré est petite. Ça va revenir à, en fait, ne considérer que des classes avec des normes de W carré plus petit qu'une constante bêta. Et donc, je vais réduire l'ensemble de tous les classificateurs à un ensemble compact. Donc, je vais revenir là-dessus, mais une des premières idées vraiment très importantes, c'est le fait qu'une des manières de réduire la taille d'une classe, c'est de régulariser le coût. Et là, on va voir apparaître plusieurs choses. On va voir apparaître le fait que la notion d'overfit, elle est liée à une notion de stabilité, c'est-à-dire qu'on va calculer le W à partir de XI, il faut que l'estimation du W soit stable, et évidemment, on va voir apparaître toutes les notions de convexité qui vont être importantes pour faire ces calculs. Alors, je vais commencer par regarder ça sans régularisation pour voir ce qui se passe si jamais on ne régularise pas. Ah, juste un commentaire. En termes de régularité, encore une fois, je veux juste insister là-dessus, le fait de supposer que les classes soient séparables, ça veut dire que les classes, que la fonction y égale f de x, elle est constante le long de toutes les directions sauf une. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de supposer que le problème est extraordinairement régulier quand on fait ce genre de choses. Alors, ensuite, cette régularité, elle est obtenue à partir du changement de variable phi de x. Donc, il faut aussi que le changement de variable ne soit pas trop difficile à trouver, donc qu'il soit lui-même régulier. Donc, ces deux aspects-là, je vais revenir dessus quand on va regarder comment choisir le phi de x. Maintenant, je vais me concentrer sur l'estimation du W et du B. Donc, on va regarder le problème sans régularisation au départ. Donc, sans régularisation, on est en train d'estimer le h de x. Donc, c'est le produit scalaire. Alors, je peux l'écrire soit comme ça, soit où je rajoute explicitement le b. Bon, on va rajouter cette fois-ci explicitement le b. Disons, pour faire encore plus clair, w par rd et b appartenant à r. On va l'écrire comme ça. OK. Et maintenant, je veux minimiser le risque. Donc, le risque, R tilde pour un estimateur H, encore une fois, ça va être 1 sur N, somme sur tous les exemples. Et ici, le risque, c'est le risque quadratique. Alors, je vais commencer par un problème de régression. C'est plus facile. Et ensuite, on va considérer les problèmes de classification. Donc, problème de régression, donc le risque, Y, Y tilde, c'est y moins y tilde au carré. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par le problème de régression, calculer le risque dans le cas où on n'a pas de régularisation, montrer qu'on se retrouve devant des problèmes instables, potentiellement, et que cette instabilité, c'est essentiellement le problème d'overfitting. Ça, ça va être la première idée. La deuxième idée, ça va être de réduire cette instabilité. Et ce qu'on va voir, c'est que cette instabilité, on peut la réduire par régularisation. Et c'est effectivement équivalent à réduire l'espace de toutes les classes. Et si on n'a plus d'instabilité, on n'aura plus de problème d'overfitting. Une fois qu'on aura fait ça sur la régression, on va faire le calcul pour voir comment ça se passe et on verra qu'est-ce qui se passe si jamais, au lieu de prendre x, on prend phi de x. Essentiellement, on va définir ce qu'on appelle, en anglais, kernel ridge regression. La deuxième partie, ça va consister à faire exactement la même chose pour la classification. Donc, vous allez retrouver les mêmes concepts, sauf qu'il y a une grosse différence, c'est que le risque, il est un peu plus compliqué dans le cas de la classification, parce que vous verrez que le risque est non convexe. Et donc, dans le cas de la classification, il faudra passer par une phase qui va consister à convexifier le risque. Et on verra que l'approche très naturelle pour faire ça, c'est l'approche qui a été empruntée par Vapnik, qui définit les support vector machines. Mais les idées sont essentiellement les mêmes, sauf que dans le cas de la classification, il faut faire face à cette non-convexité. Donc, au passage, on va passer par les propriétés de l'optimisation convexe pour bien mettre en évidence le fait que la convexité, c'est une des propriétés clés pour pouvoir effectivement calculer et résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est grosso modo le programme. Donc on commence ici, dans le cas de la classification. Donc ce que je veux, c'est minimiser 1 sur n W produit scalaire avec XI. Non, j'ai la flemme, je suis désolé, je vais appeler ça W scalaire. Sinon, je... Voilà, on va tout intégrer en un seul produit scalaire. Et donc ça, c'est le produit scalaire parce que je considère que le B, encore une fois, c'est une coordonnée de W. Moins YI, ça va être plus facile à écrire. Comme ceci, somme de I égale 1 à N. OK ? Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui dépend de W. Et je veux minimiser cette forme quadratique étant connue les XI et les YI. Eh bien, ce n'est pas très difficile. Je vais calculer le gradient par rapport à W et je veux que le gradient par rapport à W soit nul. Autrement dit, si je vois W comme une assemblée de variables, W1, WK, je vais calculer toutes les dérivées partielles et je veux que toutes les dérivées partielles soient nulles. Donc, si vous calculez le gradient de ceci par rapport à W, vous allez avoir donc, le carré, ça va faire un facteur 2 sur N, somme de I égale 1 à N, et le gradient de ceci, eh bien, ça va être W produit scalaire avec XI moins YI fois XI. Parce que le gradient du produit scalaire, ça va vous donner ici le XI. Et donc ça, ça doit être égal à 0. Donc là, je vais l'écrire comme ceci, gradient par rapport à W. D'accord ? Donc, on a une équation qui va être toute simple. Ça, ça nous donne la somme sur I du produit scalaire de W avec XI fois XI, qui est égal à la somme sur I, je peux mettre un 1 sur N, du produit scalaire, pardon, de YI fois XI. OK, donc ça, c'est une certaine constante C. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver W. Donc là, j'ai un système linéaire. Je peux voir ça comme si j'introduis la matrice A, qui est la somme sur I fois 1 sur N des XI, XI transpose. Eh bien, ça, c'est l'équation, la matrice A fois W est égale à C. D'accord ? Donc, j'ai tout bêtement un système linéaire. Et si votre matrice A, elle est inversible, eh bien vous allez avoir A, W égale A moins 1 de C. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent, parce que la matrice peut ne pas être inversible, ça c'est pas un problème, on va le voir, mais surtout parce que l'inverse peut être instable. Si l'inverse est instable, et on va faire les calculs, mais regardez ce qui va se passer. C'est-à-dire l'inverse instable, c'est-à-dire votre opérateur A-1 peut potentiellement avoir une norme très grande, c'est-à-dire amplifier très fortement certaines directions. C'est-à-dire que si vous changez un tout petit peu C, changer un petit peu C, c'est changer par exemple une réponse YI d'un certain XI, et bien le W il va complètement changer et le classificateur il va complètement changer. Et on va voir qu'en particulier, ça veut dire que vous n'avez aucune chance ou très peu de chance d'être capable de faire de la généralisation à partir de ça. Si par contre l'opérateur A est stable, eh bien on va voir, vous allez avoir effectivement quelque chose qui va se généraliser. Donc là, ce qu'on a, c'est un lien en fait entre les problèmes de classification et les problèmes inverses. Et tout réside dans cette problématique de stabilité. Alors, je vais regarder ça un peu plus précisément. D'abord, qu'est-ce qui se passe ? À quelles conditions A est inversible ? Et qu'est-ce qu'on peut faire si A n'est pas inversible ? Alors, L'opérateur A, AW, c'est la somme sur I de W, produit scalaire avec XI, XI. Si jamais je vais considérer l'espace vectoriel V qui est généré par tous les exemples, si cet espace il est égal à RD, alors à ce moment-là, ça veut dire que cet opérateur ici, il est inversible. C'est-à-dire que je peux envoyer W sur n'importe quel vecteur. N'importe quel vecteur de RD peut s'obtenir à partir d'un vecteur W. Et une des manières de voir ça, c'est tout simplement d'observer que le vecteur A est symétrique. Donc, comme il est symétrique, il est diagonalisable. Je peux l'écrire comme une matrice orthogonale fois une matrice diagonale, matrice orthogonale. Et si jamais l'espace des XI, l'ensemble des XI génère l'espace, alors à ce moment-là, ça s'indique que la matrice diagonale ici ne peut pas avoir de valeur propre nulle. Si on est dans le cas où les XI ne génèrent pas tout l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AW va se retrouver dans un espace qui est plus petit, dans un espace V qui est plus petit que RD. Vous avez votre espace ici, aidé par RD, et à l'intérieur, vous avez un espace V, et c'est là que se trouvent tous vos XI. Donc, à ce moment-là, ce que vous savez, c'est que votre opérateur A...
Oups, ça c'est moi, désolé.
Va vous envoyer RD dans V, comme ceci. Donc, ce qu'on peut faire pour essayer d'inverser A, c'est de calculer ce qu'on appelle le pseudo-inverse. C'est-à-dire, pour n'importe quel élément de V, je peux lui associer le point d'où il vient. Et puis, n'importe quel élément de V orthogonal, je lui associe 0. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire que je vais faire un espèce, ce qu'on appelle un pseudo-inverse, que je vais appeler A-1, mais en fait, ce n'est pas exactement l'inverse parce que ce n'est pas exactement inversible. Et ce que je vais faire, c'est que pour n'importe quelle valeur que je vais appeler, pour reprendre les notations, il s'applique donc pour n'importe quel x appartenant à V orthogonal, je vais imposer que A-1 de x est égal à 0. Et par contre, pour n'importe quel x appartenant à V, eh bien ce que je sais, c'est que x peut s'écrire comme un A fois W, et donc je vais définir que A-1 de X est égal à W. Donc ça, c'est le pseudo-inverse. Le pseudo-inverse, c'est l'inverse qui est nul sur l'orthogonale de l'image. V, c'est l'image de A. Ici, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à observer que la matrice diagonale D, eh bien, je vais avoir un certain nombre de valeurs propres qui vont être non nulles, et puis je vais avoir un certain nombre de valeurs propres qui vont être nulles, qui sont comme ceci. Et ça, ça va être les différentes valeurs propres que je peux appeler sigma, etc., sigma n. Donc évidemment, D n'est pas inversible, mais vous pouvez calculer le pseudo-inverse de D. Le pseudo-inverse de D, ça consiste pareil à dire... Partout là où c'est nul, eh bien, je vais le remplacer par un 0. Et là où c'est pas nul, eh bien, je vais calculer l'inverse de l'opérateur. Et dans ce cas-là, l'inverse de l'opérateur, ça va être tout simplement sigma 1 puissance moins 1, sigma m puissance moins m, et puis ensuite 0, 0. Alors, ça, je vais l'appeler psi dagger. Je vais peut-être prendre la notation pseudo-inverse classique, qui est celle-ci. Et donc, Comment on définit le pseudo-inverse de A ? C'est Q, le pseudo-inverse de cette matrice diagonale, Q transpose. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de dire, je vais mettre à zéro toutes les composantes qui sont orthogonales, et donc je vais récupérer un W, ici, qui va appartenir à V. Récupérer un W qui appartient à V, en fait, c'est équivalent à poser le problème suivant, calculer AW égale C et minimiser la norme de W carré. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la composante de W qui va influencer la valeur de AW, c'est la composante de W qui n'est pas... c'est la composante de W qui est à l'intérieur de V. La composante de W qui est orthogonale à V, eh ben vous allez avoir A, cette composante-là que je peux appeler, va être égale à 0. Donc vous n'avez pas intérêt à la rajouter, parce que si vous la rajoutez, vous allez augmenter la norme de W carré. Donc, la solution qu'on va prendre ici, dans le cas où les XI ne génèrent pas tout l'espace, c'est le pseudo-inverse, et le pseudo-inverse, c'est celui qui va minimiser cette valeur. Alors, on a donc une solution, et est-ce que cette solution va fonctionner ? Autrement dit, est-ce que je vais effectivement pouvoir généraliser à partir d'un estimateur comme ça ? Alors, on va prendre un point de vue un petit peu différent sur la façon de regarder la notion de généralisation à partir des stabilités de l'estimateur. Si vous considérez un estimateur comme ceci, et vous posez la question, sachant que le W a été calculé à partir de votre système linéaire, à quelles conditions est-ce que cet estimateur va généraliser ? Quand vous avez calculé ceci, ceci c'était la somme des yi, xi, 1 à n, de 1 sur n. Une façon de voir le problème de généralisation, c'est de se poser la question, si j'ai un nouveau point et que je calcule le risque sur ce nouveau point qui appartient à l'ensemble de ce testing, est-ce que le risque que je vais obtenir est du même ordre que le risque que j'ai calculé sur mon ensemble de training ? Donc tout le problème, encore une fois, de généralisation, c'est que vous avez une famille de xi, yi qui appartient au training. Vous allez tester ensuite votre algorithme sur des xit, yit, qui appartient au testing. À partir de ça, vous allez avoir une estimation du risque qui vous a permis de calculer un estimateur. Et là, vous allez recalculer le risque, qui va être en fait un estimateur du vrai risque, que je vais appeler RT. Et ce que vous espérez, c'est que les deux soient du même ordre. Vous pouvez faire ça pour un seul exemple. Prenez un exemple, vous pouvez regarder le résultat de votre algorithme sur un exemple comme ceci du test. Et la question que vous posez, c'est est-ce que le résultat, c'est-à-dire ici le y tilde qui est calculé, va être quasiment le même si jamais j'avais mis ceci à l'intérieur du train ou à l'intérieur du ou si je l'ai vu ou si je ne l'ai pas vu. Si je l'ai vu, le xi, autrement dit, si le xi faisait partie du training, eh bien l'erreur que je vais obtenir, c'est l'erreur de training. ne devrais pas le mettre ce T. Je vais prendre un XI. Oui. Donc je vais l'appeler comme ceci. Si ce X bar appartient au training, l'erreur moyenne, c'est l'erreur de training. Si le X bar n'appartient pas au training, l'erreur moyenne, ça va être l'erreur de testing. C'est-à-dire que en changeant, or, qu'il appartienne au training ou pas, ça veut dire que je change simplement le C en un, disons, C bar qui va être 1 sur N, somme sur I, de 1 à N, et puis par exemple, je vais faire de 1 à N moins 1, et puis je rajoute simplement le Y bar, c'est-à-dire je fais un petit changement sur mon problème, et tout d'un coup, le X bar, il passe du training au testing. Et en faisant ce petit changement, si jamais je garantis qu'un petit changement va induire une petite modification de l'erreur, alors ça veut dire que mon problème est stable. Si un petit changement sur le C, ce petit changement résultant du fait que tout d'un coup j'ai mis cet exemple, alors pourquoi il va être petit ? Parce que j'ai juste changé un exemple parmi les N. Si ce petit changement peut induire une énorme erreur sur une énorme changement sur le W, alors je peux avoir une énorme modification sur mon erreur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir mathématiquement beaucoup plus en détail, mais le principe qu'on voit apparaître ici, c'est que si l'estimateur est stable, alors, un remplacement d'un training, d'un point de training, ne va pas beaucoup influencer ne va pas beaucoup modifier le risque, et ça, ça veut dire pas d'overfitting. La stabilité ici, ça va dépendre de quoi dans le cas d'un estimateur linéaire ? Ben, si je modifie un petit peu le C tilde, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir, disons, je peux regarder le A W tilde égale C tilde. Je vais avoir un nouveau W tilde. La question, c'est est-ce que le W et le W tilde sont très différents ? Ben, ce que je sais, c'est que W moins W tilde, ça va être le A moins 1 fois C moins C tilde. Si je le prends en norme, ça va être la norme la différence, et ça, ça va être plus petit que la norme de l'opérateur A-1 fois C moins C tilde. Ça, je sais que c'est petit parce que j'ai juste changé un élément. Donc, pour que j'ai peu changé le classificateur, il faut que cet opérateur A-1 ait une petite norme. Pour que c'est quoi la norme de l'opérateur A-1 ? Eh bien, comme c'est un opérateur symétrique, c'est sa plus grande valeur propre. Donc, c'est le plus grand des valeurs entre sigma-1, sigma à la puissance 1, moins 1 et sigma m inverse, la puissance moins 1, pardon. Donc, autrement dit, c'est l'inverse de la plus petite valeur propre de A. Donc, ce que vous voulez, c'est que cette plus petite valeur propre ne soit pas trop petite. Parce que si elle est trop petite, quand vous allez l'inverser, elle va exploser et n'importe quelle petite modification va complètement changer votre classificateur. Donc votre classificateur va bouger dans tous les sens et il y a toutes les chances que vous fassiez de l'overfit et que vous soyez complètement instable. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour stabiliser un système linéaire comme ça ? Eh bien, la façon naturel de le faire, c'est de s'assurer que ces valeurs propres sigma 1, sigma n soient pas trop petites, et pour ça, eh ben, on va introduire un terme de régularisation. Donc, on va voir maintenant comment la régularisation permet de résoudre ce problème. Donc, au lieu de minimiser la somme des erreurs que j'ai commises quand je fais ma classification, ici les erreurs quadratiques, je vais rajouter ici, donc là je vais l'appeler un terme de régularisation, qui va être proportionnel à la norme de W carré. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans les problèmes inverses, une régularisation de Tikhonov. Donc là, on tombe sur des techniques qui ont été explorées depuis très longtemps quand on résout des problèmes inverses de façon linéaire. Tout le problème, encore une fois, c'est de s'assurer que quand on inverse l'opérateur, il ne devienne pas trop grand. Et ce qu'on va voir, c'est que ça va exactement nous faire le job. Pourquoi ? Si, à nouveau, j'essaye de trouver le meilleur W qui minimise cette quantité, ben, je vais calculer la dérivée par rapport à W. Et ça, ça va me donner 2 sur N, somme sur I, même équation, W produit scalaire avec XI moins YI, fois XI. Et puis là, je vais avoir plus 2 lambda W, et ça, ça va me donner égal à 0. Donc, je retombe sur la même équation précédemment. Si je reprends mes notations ici, je reconnais donc, les deux, je peux les simplifier. J'ai un 1 sur N, WXI fois XI, ça, je reconnais AW. Là, j'ai un plus lambda W, et puis ça va être égal... Ce terme, je le mets de l'autre côté, c'était précisément le 1 sur n somme sur i des xi, yi, c'est-à-dire mon terme c. Donc, je retombe exactement sur la même équation, sauf que j'ai un plus lambda w ici. Donc ici, j'ai un a plus lambda identité fois w égale c. Qu'est-ce qui se passe sur, maintenant, mon inversion ? Excusez-moi, je vais me casser avec.
Si dur.
Alors, si je reprends ce qui se passe ici, ici j'ai plus A, il faut que j'inverse A plus identité. Donc W, ça va être A plus lambda l'identité, moins 1 fois C. Ça, c'est un opérateur qui est toujours inversible. Alors pourquoi ? Petit détail, A c'est un opérateur symétrique mais aussi positif. Parce que le produit scalaire, comme vous avez ici des sommes de formes quadratiques positives, ça va être positive. Et donc, A plus l'identité, plus lambda l'identité, bah, si je remplace ceci, ça va être Q. Le plus lambda identité dans la nouvelle base, bah, ça va être aussi lambda identité, fois Q transpose. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe sur les valeurs propres de D ? Eh bien, je rajoute un plus lambda sur chacune des valeurs propres. Donc, j'en ai d'abord aucune qui va s'annuler. Mais surtout, ce que je sais maintenant, c'est que toutes les valeurs propres, elles sont toutes plus, toujours plus grandes que lambda. Donc, si j'inverse ben, l'inverse de ces valeurs propres, 1 sur lambda k, plus lambda, ça va être toujours plus grand que 1, ça va être toujours plus petit que 1 sur lambda. Autrement dit, si je regarde la norme de ce vecteur, de cet opérateur, pardon, c'est toujours plus grand que lambda moins 1. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que quand j'augmente la régularisation, je vais avoir un opérateur inverse qui va devenir de plus en plus stable, c'est-à-dire qui va de moins en moins faire exploser les choses. Donc c'est quelque chose qui va me permettre d'éviter les phénomènes d'overfitting. Une autre façon de voir exactement la même chose, c'est que si jamais je regarde ça, ce qu'on va voir, c'est que, en fait, c'est la même chose que reprendre le problème d'origine, c'est-à-dire minimiser le risque empirique. Donc le risque empirique, c'était le risque sans régularisation, c'est-à-dire là, c'était le risque empirique de départ, sous contrainte que la norme soit plus petite qu'un certain bêta. Si je pose ce problème ici, j'ai un problème où je veux faire une minimisation d'une quantité qui est convexe, sous une contrainte, et là, comment on peut interpréter ça? Tout simplement comme le Lagrangien. Donc il existe un lambda qui va correspondre à ce bêta. Donc, résoudre le problème régularisé, ça revient en fait à résoudre le problème de départ, mais en fait d'imposer que le W appartient à une classe qui est plus limitée, parce qu'au lieu de prendre tous les W, je prends un W qui est plus petit. Et en particulier, je prends un W plus petit, donc je vais obtenir une classe H qui est compacte. Donc il y a vraiment deux points de vue. Là, je vous donne les deux points de vue qui reviennent évidemment au même. Il y a un point de vue qui consiste à regarder l'estimateur, c'est-à-dire le calcul de la régression, et s'assurer que cet estimateur n'est pas trop instable. Et il y a un autre point de vue qui consiste à dire comment il a été calculé, cet estimateur. Il a été calculé à travers une minimisation sur une classe. Eh bien, il faut que la classe ne soit pas trop grande. Et l'instabilité ou la taille de la classe, en fait, c'est deux choses qui sont ici équivalentes. Donc, on prendra un regard ou l'autre regard suivant les situations, mais les deux concepts se rejoignent. Et dans ce cas-là, eh bien, une des façons naturelles de faire la régularisation, c'est tout simplement ici de mettre une norme L2 sur la taille. Alors, observez, pour rendre cet ensemble ici petit, je n'étais pas forcé d'imposer une norme L2. Je peux imposer autre chose. Par exemple, je pourrais imposer une norme L1. Alors, c'est quoi la différence? La norme L2, c'est la somme des coordonnées au carré, alors que la norme L1, c'est la somme des valeurs absolues. Il y a une chose qui apparaît, c'est qu'en fait, quand on minimise, on essaye d'avoir une petite norme L1, ce que ça va avoir tendance à faire, c'est produire des W qui sont sparses, c'est-à-dire beaucoup de W qui sont nuls et quelques-uns qui sont grands. Et donc, dans ce cadre-là, ça consiste à essayer de trouver un W qui, d'une certaine manière, va essayer de sélectionner un petit nombre de features pour faire la combinaison linéaire. Donc ça, c'est une autre possibilité. Là, ce qu'on va regarder aujourd'hui et la fois prochaine, c'est des normes L2 qui sont plus faciles à manipuler, mais il y aura une présentation de Francis Bach qui parlera sans doute de ces minimisations avec des normes L1 qui reviennent à obtenir des représentations parcimonieuses du vecteur W. Alors, un point qui est important, c'est d'observer que si vous minimisez ceci, eh bien, le vecteur W, il va toujours appartenir à l'espace V. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle en anglais, Representer Theorem, qui est assez immédiat à vérifier. Si je regarde le vecteur W, la solution de la minimisation 1, donc ce que je veux, c'est minimiser ceci. Ça, c'est le problème 1. S'écrit toujours W égale somme sur i d alpha i xi, pardon. Et donc appartient toujours à V. Alors à nouveau, et ça va être important parce que c'est ça qui va nous permettre de travailler sur les variables duales et de pouvoir généraliser tout ça à des noyaux qui sont beaucoup plus généraux. Alors d'où ça vient ? Ben, ça vient du fait que le W, je peux toujours l'écrire comme un W1 qui appartient à V, à nouveau, je vais le refaire, plus W2 qui appartient à V orthogonal. Dans ce problème là-bas, eh bien, le R tilde de lambda de W, j'ai une somme, mais la somme, c'est les produits scalaires entre W et XI. Ben, la composante orthogonale à V, ça va toujours me donner 0. Parce que V est généré par tous les XI. Donc ça, ça va me donner simplement la composante qui est dans V, autrement dit W1 produit scalaire avec XI, moins YI. Ça, c'est le premier terme. Et le deuxième terme, c'est lambda fois la norme. Ben, la norme du W, ça va être la norme de la composante qui est dans V, plus la norme dans la composante qui est dans V orthogonale. Et si je veux minimiser ça, ben, on voit bien que la composante W2, elle n'influence absolument pas le terme d'erreur, elle ne permet pas du tout de réduire ça, donc j'ai intérêt à la mettre à zéro. Et dire que W2 est égal à pour minimiser cette quantité-là, est égal à 0, ça veut dire que le vecteur W appartient à V, autrement dit, s'écrit comme une combinaison linéaire des XI. D'accord ? Donc, ce qu'on sait, c'est que le vecteur qu'on va chercher, c'est une combinaison linéaire des données. Donc, on va le chercher à l'intérieur de cet espace. Alors, le fait qu'il soit à l'intérieur de cet espace, ça va impliquer qu'on peut maintenant exprimer le problème en fonction de ces combinaisons linéaires. Si je remplace ici le W, je vais le faire sur ce tableau-là, je vais avoir une nouvelle expression du risque que je vais pouvoir exprimer en fonction de ces variables duales. Donc, je vais prendre mon W ici, je l'insère, donc R tilde lambda de W, c'est 1 sur N, à nouveau le risque, donc W produit scalaire, ça va me donner, je vais l'écrire ici, somme des alpha i xi, i égale 1 à N, alors je vais prendre ici une autre variable, je vais l'appeler k, k égale 1 à n, alpha k, xk, moins produit scalaire avec xi, moins yi, carré. Et il y a la deuxième composante, c'est lambda. La norme au carré, c'est donc le produit scalaire des alpha k, xk, c'est le w, avec lui-même, c'est-à-dire alpha k prime, xk prime. D'accord ? Je suis simplement en train de remplacer W par son expression. Ici, ça c'est les expressions de W. Maintenant, si je développe cette quantité-là, je vais avoir ici une somme, un 1 sur n, somme sur i, somme sur k, et je vais avoir le alpha k xk produit scalaire avec xi. Alors, j'ai une double somme, excusez-moi, donc je vais avoir ceci au carré, alors que je fasse deux fois le produit scalaire. Je ne vais pas m'embêter à le développer, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je vais simplement faire apparaître le fait que ça, c'est une somme sur k. Les alpha k, xa, xi. Et là, le produit scalaire, ça va être tout simplement la somme des composantes, autrement dit, la somme sur k prime, des alpha k prime, xk, xk prime. Je vais simplement le laisser comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ceci, ça ne dépend que des produits scalaires entre les xk, éventuellement xk prime. Donc, pour trouver le W, je ne dépends que d'une chose, c'est de ces quantités-là, xk, xi. Et ça, c'est une forme quadratique en alpha k, et qui est une fonction convexe, parce que je suis parti d'une fonction convexe de W, que W est une combinaison linéaire. Alors le fait que ça dépende que des produits scalaires, ça veut dire que si je reviens à l'idée de base, qui était de dire les x, je vais les remplacer par un changement de variable en un phi de x, ben, les produits scalaires qui apparaissent ici, ils vont être remplacés par les produits scalaires entre phi de xk et phi de xi. Donc, tout ce dont j'ai besoin pour trouver le bon W, ce n'est pas vraiment de connaître la valeur de phi de x, mais c'est de connaître ses produits scalaires. Ces produits scalaires, c'est ce qu'on appelle la valeur du noyau en xk et xi. Il y a deux façons de les calculer. Soit je calcule phi de x et je calcule phi de xk, phi de xi et je calcule ce produit scalaire, soit j'ai une formule analytique directement donnée par ça. L'apprentissage par noyau consiste à observer qu'on peut passer directement ici par le noyau sans avoir à calculer les phi. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que je vais avoir un problème d'optimisation dont le nombre de termes va être de l'ordre de n. Ces sommes, je vais avoir n au carré, parce que j'ai deux fois des sommes sur n. Donc je vais avoir n au carré coefficient de cette optimisation, et ça ne dépend pas de la dimension de phi. Or, il y a des cas où on a envie que la dimension du phi soit très très grande, parce qu'on a envie de prendre énormément de features, encore plus que le nombre de pixels. On va voir que effectivement tout ça c'est juste, on peut faire de la classification avec ça, et on va tomber sur ce qu'on appelle les noyaux gaussiens et les RBF, sauf que quand on commence à prendre des phi de x dont la dimension est trop grande, c'est-à-dire on prend beaucoup trop de features pour faire la classification, on va commencer à avoir des problèmes d'overfitting, à nouveau d'instabilité. Donc en fait, ce qui s'est passé sur tout ce thème, c'est qu'il y a eu un moment dans les années 2000 où les gens se sont dit ben, c'est comme ça qu'il faut faire, et on va voir pourquoi. Si on se retrouve en très très grande dimension, c'est-à-dire vous avez un nombre absolument gigantesque de structures discriminantes, vous allez toujours en avoir une qui est suffisamment bonne pour séparer les deux classes. Et donc l'idée, ça a été de se dire, on va se placer en très très grande dimension, prendre énormément de structures, et il y en aura toujours une qui va séparer les deux classes, et donc le problème va être simplifié, et le fait qu'on a pris énormément de structures, on ne va pas le payer en termes de calcul, parce que le nombre d'opérations, il dépend du nombre d'exemples, à partir du moment où on calcule directement le produit scalaire à partir d'une formule analytique du noyau. Sauf que, on va voir, le problème, c'est que quand on fait ça, on finit par avoir un problème d'overfitting. Et donc, en pratique, la dimension de phi, elle est plutôt inférieure à la dimension de d. Et c'est pour ça qu'il y a eu un espèce de changement dans le domaine où, petit à petit, comme vous l'a dit Pierre Courtiol précédemment, les gens ont laissé tomber, en partie, pas toujours, hein, mais en partie ces approches de noyau, parce qu'en fait, il y a des approches beaucoup plus efficaces en termes de calcul si on trouve des vecteurs phi de x qui ne sont pas trop grands, et on fait la classification linéaire à partir de ces vecteurs phi de x qui ne sont pas trop grands. Évidemment, tout le problème, c'est de trouver ces fameux vecteurs phi de x qui ne sont pas trop grands et qui permettent malgré tout de faire la classification. Et à nouveau, on va tomber dans la deuxième partie du problème et la capacité de calculer ça éventuellement avec des réseaux de neurones. Je voudrais terminer... Alors, ce qu'on va faire là... Oh, je ne vais pas terminer là-dessus. On va faire... Donc cette fois-ci, pardon, j'aurais dû vous le dire au départ, il n'y a pas de séminaire, mais je vais faire la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, il y a deux choses que je vais introduire. D'abord, je vais revenir sur l'importance de l'optimisation convexe, qui est complètement au cœur de tout ça. Tout ça ne fonctionne et on a des algorithmes relativement simples et éventuellement des formules analytiques parce qu'on fait de l'optimisation convexe. Et évidemment, ça a sa limitation. Et ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand ensuite on réapplique le même genre d'idée à la classification et la nécessité de convexifier le problème. Voilà, donc on va faire une pause d'un quart d'heure. Et puis...